France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'accident de la navette spatiale Columbia. Le 1er février 2003, après 15 jours en orbite, les 7 astronautes embarqués à bord de ce vaisseau mythique et hybride, mi-avion, mi-fusée, entament leur voyage retour vers la Terre. Une descente qui marque la fin du 113e vol de la navette. Une procédure devenue presque routinière, mais qui là va se solder par une désintégration totale et la mort de tous les passagers. Et évidemment, il n'y a pas de survivants dans les catastrophes spatiales. Après l'explosion au décollage de Challenger, 17 ans plus tôt, c'est le second accident de l'emblématique programme spatial américain. Résultat d'une série de négligences et d'une course effrénée à la réduction des coûts, Columbia ajoute ainsi 7 lignes à la liste des hommes et des femmes disparus dans l'histoire de la conquête de l'espace américaine. Notre invité aujourd'hui, Philippe Perrin, ancien spationaute de l'Agence spatiale européenne. Il a volé dans la navette américaine Endeavour à l'occasion de la mission STS-111 en juin 2002. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Gaspard Valu. Rédaction en chef, Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca Donnante. Réalisation, Stéphane Kuhn.
Fabrice Drouel. Affaires Sensibles. Sur France Inter.
And you see the forward instrument panel, the books from right to left are where we keep our daily energy package, our Earth Odds info, and info for...
Mardi 28 janvier 2003, à 285 km d'altitude. Installé dans la zone de vie de la navette spatiale Columbia, le commandant Rick Husband échange quelques mots avec le centre de contrôle de la NASA Houston, au Texas. À ses côtés, le pilote William McCool appelle les 5 autres membres de l'équipage de la mission STS-107. Les astronautes installés dans le cockpit, tout comme leurs collègues concentrés sur leurs expériences scientifiques dans le module Space Hall, quittent un instant leurs activités pour rejoindre le reste de l'équipe. Et ils savent qu'aujourd'hui est un jour particulier. Chaque année à la même date, c'est l'Amérique tout entière qui se recueille. En ce jour du souvenir, ils s'apprêtent à rendre hommage aux 10 morts de l'histoire de la conquête spatiale américaine, autrement dit aux équipages d'Apollo 1 et de la navette Challenger. L'équipe est au complet, l'astronaute Laurel Clark allume la petite caméra de bord et Rick Husband annonce aux opérateurs au sol qu'il est prêt à prendre la parole. La salle de contrôle se tait et le commandant commence son discours.
Ok, nous avons une déclaration que nous voudrions faire au nom de l'équipage de STS-107. Aujourd'hui, nous nous rappelons et honorons les équipages d'Apollo 1 et Challenger. Ils ont fait le sacrifice ultime en donnant leur vie au service de leur pays et de l'humanité. Leur engagement pour l'exploration de l'espace a été une inspiration pour chacun d'entre nous et continue à motiver des gens à travers le monde. Alors que nous orbitons autour de la Terre, nous nous joignons à la grande famille de la NASA pour un moment de silence en leur mémoire.
L'équipage de la navette Columbia ne le sait pas encore, mais les mots prononcés par Rick Husband vont bientôt prendre un sens tragique pour lui-même et ses compagnons.
Apollo 17, c'est fini depuis hier puisqu'ils sont sur Terre et en bonne santé. À vous, Jean-Pierre Chapelle.
Apollo 17 a battu tous les records de durée de vol lunaire, 301 heures 51 minutes, record de ramassage des échantillons, 117 kilos, record de sortie sur la Lune, 23 heures 12 minutes, record de durée en orbite lunaire. Tout cela montre bien que la dernière des missions Apollo est indiscutablement la plus réussie de toutes.
L'histoire de la navette spatiale américaine débute en 1972. Alors que le programme lunaire, le merveilleux programme lunaire Apollo prend fin avec le retour de la mission Apollo 17 donc, le président américain Richard Nixon doit faire un choix. Moins enthousiaste que son prédécesseur Kennedy vis-à-vis de la question spatiale, il étudie avec attention les propositions formulées par une commission chargé d'envisager le futur de la conquête de l'espace par l'Amérique. Au sein de la NASA, les avis sont partagés. Il y a ceux qui plaident pour un ambitieux programme d'exploration de la planète Mars et ceux qui pensent qu'il est temps d'entrer dans une nouvelle phase, celle de l'exploitation de l'espace, autour de la Terre. Pour y parvenir, ils savent qu'il faut repenser le modèle et ils sont bien décidés à réaliser un vieux rêve, celui du recyclage, en quelque sorte. Fini le temps des immenses fusées au coût astronomique, c'est le cas de le dire, et qui terminent leur vie dans le vide spatial ou au fond des océans. Ils imaginent alors un vaisseau capable d'emporter hommes et matériel en orbite avant de venir se poser comme un planeur sur une piste d'atterrissage. Cet ambitieux programme est baptisé STS pour Space Transportation System. Et c'est bien celui-ci que retient le président américain. Le budget pour le développement est débloqué et les ingénieurs de la NASA se mettent au travail. Rapidement, les ébauches laissent place au plan définitif et les premières maquettes sont construites. Aux États-Unis, comme partout dans le monde, ce nouveau vaisseau qu'on appelle déjà la navette spatiale intrigue.
La voici, cette navette. Elle est construite pour durer. Elle peut servir 100 fois, c'est-à-dire qu'elle peut effectuer 100 allers-retours Terre-espace. Avec ses ailes, on dirait un énorme avion. Et la navette est de la taille d'un DC-9. Seulement, ses ailes sont plus courtes, plus épaisses. Dessous, pas de réacteur, mais à l'arrière, trois énormes moteurs fusées. En somme, c'est à mi-chemin entre l'avion et la fusée. Sur son dos, une énorme soute à bagages dans laquelle pourrait tenir une locomotive. C'est en quelque sorte la benne du camion spatial. Voici la navette, et dessous, un énorme réservoir. Un bidon contenant de l'hydrogène et de l'oxygène liquide. Et pour soulever le tout, de part et d'autre, deux moteurs à poudre. Attention, le décollage.
Une durée de vie de plus de 100 vols par vaisseau, le tout avec une maintenance minime entre chaque décollage. Le projet de la NASA est révolutionnaire et permet de repenser les frontières de l'espace. Et puis il y a le look de l'engin. Ce n'est peut-être pas essentiel, mais quelle élégance, quelle ligne! Les capacités annoncées des navettes sont aussi pleines de promesses. Grâce à une flotte de 5 orbiteurs baptisés Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis et Endeavour, capables de réaliser des séjours de plusieurs semaines dans l'espace, la NASA envisage une large palette de missions. Envoi de satellites, transport de modules d'une future station spatiale ou de grands télescopes orbitaux, missions scientifiques et missions de réparation en orbite, la navette semble n'avoir presque aucune limite. Des frontières qui sautent, des capacités hors normes et surtout des coûts réduits au minimum, c'est aussi ça la promesse du programme STS. Terminer encore une fois les budgets colossaux des missions Apollo. Grâce à la navette, les responsables de la NASA affirment qu'un décollage ne coûtera pas plus de 50 millions de dollars. On est très loin en effet, des centaines de millions dépensés pour chaque vol des capsules lunaires. Les nombreux clients de l'agence spatiale américaine se frottent déjà les mains. Heureux de voir les coûts d'accès à l'espace réduire aussi drastiquement. Moins de 5 ans après le lancement du programme STS, la toute première navette expérimentale, baptisée Enterprise, effectue une série de tests concluants. Les images du vaisseau largué depuis un avion dans l'atmosphère terrestre font le tour du monde. Et celles de l'atterrissage, tout en douceur, suscitent un important regain d'intérêt. Car il est aussi là l'objectif du programme STS. Raviver la flamme d'un public américain qui s'est peu à peu lassé de voir des hommes marcher sur la Lune, les enfants gâtés. Le 12 avril 81, Columbia, la première de la série des 5 navettes opérationnelles, effectue son premier vol dans l'espace. Une mission qui rassemble près d'un milliard de téléspectateurs à travers le monde.
Il était 20h22, heure française, lorsque le premier avion de l'espace atterrissait en plein dans le mille sur le désert californien. Hier, tout s'est achevé comme dans un western, tout y était, le suspense, le désert écrasé de soleil, la victoire des deux héros. Exploit accompli, une odyssée de 54h20 et sans une tuile, ou presque, sur place, l'un de nos envoyés spéciaux, Denis Poncet.
C'est une drôle de façon d'arriver en Californie, s'est écrié le commandant John Young après son atterrissage parfait sur la base des Oies. Ce lancement s'est déroulé comme dans un rêve. Les fusées d'appoint à carburant solide se sont détachées comme prévu au bout de 10 minutes 18. Une fois sur orbite, toutes les manœuvres au programme, notamment l'ouverture des deux portes de la soute pour évacuer la chaleur, n'ont posé aucun problème. Et qu'enfin, après un plongeon vers la Terre à plus de 28 000 km à l'heure, la navette a réussi à progressivement perdre de la vitesse pour atterrir en vol plané à moins de 400 km à l'heure. Non, il est difficile d'oublier une pareille aventure.
Dans les mois qui suivent, les vols du programme STS s'enchaînent. Après Columbia, la plus lourde et la moins performante, entre guillemets, des navettes Challenger puis Discovery sont mises sur le pas de tir. Les soutes sont remplies de satellites. Jusqu'à 8 peuvent être déployés lors de chaque mission. On teste de nouvelles procédures, comme la récupération d'objets en orbite en fin de vie. Des nouveaux outils sont implantés aux vaisseaux les plus récents. La dernière version du bras robotisé, baptisée Canarvam, équipe désormais les orbiteurs américains, leur permettant de réaliser toute une série de manipulations. Mais les astronautes ne se contentent pas à la livraison de charges utiles en orbite ou aux opérations de maintenance. Grâce aux capacités de séjour long dans l'espace, les navettes peuvent pallier l'absence d'une station spatiale permanente et réaliser des missions scientifiques. Lors de ces vols, les soutes et orbiteurs sont équipés du module Space Lab, conçu par les Européens. Dans ce véritable laboratoire, les équipes se relaient 24 heures sur 24 pour mener des expériences commandées par des chercheurs partout dans le monde.
Pointée vers l'espace, voici Columbia. Cette fois, dans la soute, elle emporte le Space Lab, le laboratoire construit et financé par l'Agence spatiale européenne. Un laboratoire scientifique modulable et réutilisable. À Cap Canaveral, la NASA a consacré un gigantesque bâtiment à ce programme de recherche. Le Space Lab a déjà été construit à plusieurs exemplaires, dont un offert par l'Europe aux États-Unis en échange du tir dans les prochaines heures de l'exemplaire européen. En fait, le Space Lab préfigure déjà les usines spatiales que les hommes placeront demain en orbite autour de la Terre.
À l'approche de la fin de la décennie 80, le programme STS est lancé. Oh, il n'a pas encore atteint son rythme de croisière, mais la perspective de missions importantes et le carnet de commandes rempli permettent aux responsables de la NASA d'afficher leur optimisme. En coulisses pourtant, c'est une autre histoire. Car en réalité, les navettes spatiales montrent très vite leurs limites. La promesse de pouvoir les réutiliser est loin d'être tenue. Alors qu'on espérait presque pouvoir faire le plein après une mission et redécoller dans la foulée, les orbiteurs reviennent sur Terre sérieusement endommagés. La violence des rentrées atmosphériques impacte durement les boucliers thermiques. La structure des vaisseaux doit donc être soigneusement contrôlée et parfois presque entièrement reconstruite après chaque mission. Cette douce illusion de réutiliser le matériel entraîne une explosion des coûts, forcément. Argument principal du programme STS, les 50 millions de dollars annoncés pour chaque décollage se transforment vite en une centaine de millions. Avec des vols bien moins nombreux que prévu initialement, la navette spatiale est dans le rouge. Mais l'heure n'est pas encore à la remise en question.
4, 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower.
Roger, Challenger. Good roll program confirmed. Challenger now heading downrange.
Le 28 janvier 86, moins de 5 ans après le premier vol d'une navette spatiale dans l'espace, la mission STS-51L s'apprête à décoller. Si le largage d'un satellite de télécommunication et l'observation de la comète de Halley sont les objectifs principaux, c'est surtout la composition de l'équipage qui crée l'événement. Parmi les 7 astronautes commandés par l'expérimenté Dick Scobee se trouve Christa McAuliffe. À l'inverse de ses compagnons pour ce voyage vers les étoiles, elle n'est pas une astronaute de métier, non. Elle est enseignante. Et elle a été sélectionnée pour participer à ce vol qui se veut médiatique et durant lequel elle fera cours depuis l'espace. Pour l'occasion, ses élèves font le déplacement sur la base de Cap Canaveral en Floride. Comme des dizaines de milliers de personnes présentes aux abords du site ce jour-là, ils viennent assister à ce décollage hautement symbolique. Les caméras de télé sont là pour immortaliser le moment.
Challenger, go and throttle up. Madame, monsieur, bonsoir. Ce devait être la routine, ce fut le drame. 45 secondes après le décollage, la navette américaine Challenger a explosé en plein vol. Elle s'est pulvérisée dans une gerbe de flammes. Il y avait 7 astronautes à bord. Selon la NASA, il n'y a pas de survivants.
La désintégration de la navette Challenger, 73 secondes après son décollage, tue instantanément les 7 membres de l'équipage, dont Christa McAuliffe, la première civile à participer à une mission spatiale. Après cet accident tragique, la NASA cloue au sol toute la flotte de navettes durant plus de 9 mois. L'enquête révèle que l'explosion est due à un joint défaillant sur l'immense réservoir installé sous le vaisseau. Le problème est identifié et l'intégralité des engins, orbiteurs, réservoirs et propulseurs sont contrôlés et modifiés. Le programme ne reprendra qu'en septembre 1988. Mais dès le vol STS-27, le deuxième après l'explosion de Challenger, la navette Atlantis subit d'importants dégâts lors de la phase de décollage. Le flanc et l'aile droite sont sérieusement endommagés par des débris provenant du réservoir auxiliaire. Les opérateurs au sol décident de ne rien faire et tentent de rassurer les astronautes à bord du vaisseau. Ce n'est qu'à leur retour sur Terre qu'ils constatent que la carlingue est passée tout proche d'une désintégration lors de la rentrée dans l'atmosphère. Malgré ce nouvel incident qui aurait pu connaître une fin tragique, les responsables de la NASA décident de maintenir le cap.
Soy written on a soy say. Bingo moon is on its way. None of you stand so tall. Bingo moon, then I get you on the bingo moon. Yes, bingo moon. Bing, 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 bing. Bing moon. Bing, 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 bing. Bing moon. Zoe written and a Zoe say. Bingo moon is on its way. None of you stand so tall. Bingo moon, then I get you on. It's a bingo moon.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la tragédie de la navette spatiale Columbia.
Affaires Sensibles sur France Inter.
Depuis hier soir, ils sont 10 à vivre ensemble dans l'espace. L'équipage américain et russe se sont rejoints, en effet. Et cette cohabitation va durer 5 jours pleins. Jean-Claude Delany.
Les cadeaux entretiennent l'amitié et les Russes et les Américains sont devenus, on le sait, de très bons amis. Dans le genre bucolique, les astronautes d'Atlantis ont offert une fleur fraîche à leurs camarades de Mir. Plus classique, l'équipage de Mir a offert à ses visiteurs des médailles et des montres, mais pas de fleurs pour les deux américaines. Le calendrier, lui, est américain, mais imprimé dans les deux langues, histoire de bien noter les prochains rendez-vous dans l'espace. Photos de famille ensuite pour les 10 spationautes. Mais après les civilités, les choses sérieuses vont commencer. Plus de 50 missions scientifiques sont programmées jusqu'à mardi, date prévue pour la séparation et le retour d'Atlantis vers la Terre.
Au début de la décennie 2000, la NASA semble avoir surmonté le traumatisme de l'explosion de la navette Challenger. Oui, les incidents sont réguliers, mais tant bien que mal, les équipages embarqués parviennent à remplir leur mission. Le coût du programme STS est lui aussi sujet à interrogation. La promesse d'un accès rapide et peu coûteux à l'espace s'est commentée, mais l'Amérique fait avec. Surtout qu'au début de ce nouveau millénaire, la NASA est pleinement investie dans la stratégique mission d'assemblage de la toute nouvelle station spatiale internationale. Les uns après les autres, les équipages décollent de Floride, les soutes remplies des modules qui composent le nouveau lieu de vie des astronautes en orbite. La navette est également mobilisée pour d'importantes missions de sauvetage du télescope orbital Hubble. Cet outil précieux, à plusieurs milliards de dollars, dont la vie est marquée par les problèmes techniques, nécessite des interventions à haut risque de la part des astronautes qui naviguent à bord des navettes américaines. C'est le cas lors de la mission STS-103, à laquelle le spationaute français Jean-François Clairvoy prend part.
À Houston, les membres de la NASA retiennent leur souffle. Il est 0h34 en temps universel et l'équipage de Discovery vient de capturer le télescope Hubble à 600 km d'altitude. C'est l'astronaute français Jean-François Clairvoy qui manipule le bras robotisé de 15 mètres de long. C'est ce bras, terminé par une pince, qui a agrippé le télescope de 12 tonnes pour le positionner à l'arrière de la navette dans l'emplacement prévu pour sa réparation. Cette nuit, la NASA ne cachait pas sa satisfaction face à ce succès et quelques heures avant l'arrimage, les quatre astronautes, dont Jean-François Clairvoy, qui a gagné le surnom de la pince, ont pu souhaiter leurs meilleurs vœux pour l'an 2000.
Je souhaite à tous les humains sur Terre le meilleur millénaire pour les années 2000 à 3000.
Si les missions techniques sont nombreuses, les missions scientifiques, elles, sont de plus en plus rares. Relégués au second plan, les équipages sélectionnés pour ces vols doivent faire face à de multiples reports. C'est le cas de la mission STS-107, qui doit inaugurer un nouveau laboratoire embarqué. Programmée pour décoller à bord de la navette Columbia en août 2001, elle est d'abord reportée en raison d'importants travaux de maintenance, puis elle doit laisser la place sur le pas de tir à des vols jugés plus importants. Face à ces nombreux retards, les astronautes de cette mission prennent leur mal en patience. Commandé par le vétéran Rick Husband, l'équipage est composé de 7 hommes et femmes. Kalpana Chawla, la première astronaute américaine d'origine indienne, et Michael Anderson effectuent, comme leur commandant, leur second vol dans l'espace. Le pilote de la navette, lui, William McCool, ainsi que Laurel Clark, David Brown et Ilan Hammond, le premier Israélien à se rendre dans l'espace, effectuent eux leur toute première mission en orbite. Durant plus de 2 ans, l'équipage s'entraîne sans relâche et prépare minutieusement les nombreuses expériences scientifiques qui seront bientôt menées en orbite. Et finalement, après 13 reports de mission, la date du décollage est arrêtée. Le jeudi 16 janvier 2003, la navette Columbia se trouve sur le pas de tir 39A du Kennedy Space Center en Floride. Un mot sur cet endroit, Cap Canaveral. On le voit à des kilomètres à la ronde, depuis Cocoa Beach, notamment une station balnéaire assez moche, truffée d'hôtels où chaque réception est ornée d'un astronaute en plastique. Quant au musée de l'espace, installé sur cet immense territoire du Cap, il montre certes aux visiteurs des vestiges d'Apollo, notamment, mais le tout dans une ambiance parc d'attractions genre Disneyland de l'espace. Loin de cette plaisanterie, Columbia s'apprête à effectuer son 28e vol depuis sa mise en service. Installé dans le cockpit et dans le pont inférieur du vaisseau, l'équipage est heureux de décoller, enfin, pour cette mission qui doit durer 16 jours. À 15h39, le compte à rebours final est lancé.
10, 9, 8, 7, we have a go for main engine start. 5, 4, 3, 2, 1. We have booster ignition and liftoff of Space Shuttle Columbia with a multitude of national and international space research experiments.
Houston now controlling the flight of Columbia, the international research mission finally underway.
Roger, roll, Columbia.
En apparence, le décollage se déroule sans encombre et quelques heures seulement après la phase de poussée, la navette rejoint son orbite à environ 285 km d'altitude. Sans perdre de temps, le commandant ouvre les portes de l'immense benne cargo et l'équipage se met en ordre de marche. Divisés en 2 équipes, une rouge et une bleue, ils vont désormais se relayer pour travailler 24 heures sur 24 durant toute la durée de leur séjour dans l'espace. Au sol, en revanche, c'est une autre histoire. Les yeux rivés sur leurs écrans de contrôle, les opérateurs du centre spatial sont tendus. Ils regardent en boucle le film du décollage. Et les images ne trompent pas. 81 secondes après la poussée initiale, et alors que la navette disparaît peu à peu dans le ciel, ils observent un impact sur l'aile gauche de Columbia. Un choc provoqué par un bloc de mousse isolante provenant du réservoir auxiliaire. Mais impossible pour l'instant d'évaluer les dégâts causés par cet impact. Certains responsables veulent demander à l'armée d'envoyer un satellite espion photographier la zone d'impact afin d'évaluer l'ampleur des dégâts. Mais la demande est refusée. De toute façon, les astronautes ne sont pas équipés pour effectuer de potentielles réparations. Impossible non plus d'imaginer une mission de sauvetage. La navette Columbia, la plus vieille de la flotte, ne dispose pas de sas de sortie. Le seul incident similaire auquel les équipes du centre spatial peuvent se raccrocher est celui intervenu lors de la mission STS-27 sur la navette Atlantis, au terme de laquelle l'équipage est parvenu à revenir sur Terre. Alors, Houston, on décide de ne rien faire. Les astronautes à bord de Columbia sont informés quelques jours plus tard, mais on assure alors au commandant Husband que cela n'entraîne aucun danger pour la fin de la mission. Alors, sans plus d'inquiétude, l'équipage la poursuit cette mission. Le 30 janvier, après 15 jours en orbite, les 7 astronautes se préparent au retour sur Terre. Les dernières expériences sont terminées, les résultats sont stockés dans des disques durs ou envoyés sur Terre, le SAS du laboratoire est fermé et chacun s'équipe pour le voyage final vers la piste d'atterrissage de Cap Canaveral. Dans le cockpit, le commandant Rick Husband prend place aux côtés du pilote de la navette William McCool. Derrière eux, Kalpana Chawla et Laurel Clark. Et sur le pont inférieur, ou dans le pont inférieur, David Brown, Ilan Ramon et Michael Anderson s'installent eux aussi sur leur siège. Après l'allumage des propulseurs pour s'extraire de l'orbite et entamer le voyage retour vers la Terre, Laurel Clark saisit son petit caméscope et enregistre les premières minutes de la descente. On entend les 4 astronautes plaisanter alors que les premières flammes, synonymes d'entrée dans les hautes couches de l'atmosphère terrestre, apparaissent derrière les hublots.
Je me suis tournée vers toi pour te regarder.
On commence à voir des flammes.
Oui, on commence à les voir. Je regarde si je peux avoir une meilleure vue sur le côté.
C'est un orange clair, presque jaune, au niveau du nez. C'est incroyable, ça devient vraiment très clair dehors.
On n'a vraiment pas envie d'être dehors, là.
À 8h54, le vaisseau se trouve à 63 km d'altitude. Il approche des côtes de Californie, plus que 22 minutes avant l'heure d'atterrissage prévue en Floride, de l'autre côté du continent américain. Columbia file à Mach 20, 20 fois la vitesse du son. La navette est cabrée, le nez vers le haut. Le bouclier thermique fait face à une température extrême de plus de 1400 degrés. Dans la salle de contrôle, à Houston, au Texas, un opérateur signale au chef de mission que 4 capteurs situés dans l'aile gauche de Columbia n'émettent plus aucun signal. À 8h58, alors que la navette pénètre dans le ciel du Texas à Mach 17, le responsable de vol tente de contacter Rick Husband et son équipage pour signaler un problème repéré au niveau des capteurs du train d'atterrissage. Une communication qui intervient au moment où une courte fenêtre de silence radio doit avoir lieu.
Pour info, j'ai perdu 4 capteurs sur la partie gauche du véhicule, des capteurs hydrauliques de température.
Tu me dis que tu les as perdus exactement au même moment ?
Non, pas exactement, environ 4 ou 5 secondes entre chaque.
Columbia, ici Houston, nous voyons votre message sur la pression des pneus, mais on n'a pas tout reçu.
Houston, comm check. Columbia, Houston, UHF, comm check.
L'interruption des communications ne doit durer que quelques secondes, mais elle se prolonge. Et malgré tous leurs efforts, les opérateurs du centre spatial ne parviennent plus à échanger avec l'équipage. Dans le cockpit, le pilote William McCool a de plus en plus de mal à contrôler la navette. Après plusieurs secondes à tirer sur le manche, il passe en pilotage automatique. Mais rien n'y fait. Columbia est en chute libre, incontrôlable. Il est 9h pile lorsque des passionnés positionnés sur le sol texan braquent les objectifs de leur caméra vers le ciel. Ils attendent la navette. Ils sont des dizaines à filmer la grosse traînée blanche qui file à Mach 16 vers l'est et tous voient alors des débris s'échapper de la traînée principale. Secoués par la violence de la descente, les astronautes à bord de Columbia ne le savent pas, mais la chaleur extrême s'est engouffrée dans les trous créés lors de l'incident au décollage. La structure fond et l'aile gauche de la navette se désagrège à toute vitesse. À 9h et 3 minutes, Columbia explose au-dessus de la ville de Dallas. Au même moment, les familles des 7 astronautes attendent sur les gradins qui longent la piste d'atterrissage du Kennedy Space Center à Cap Canaveral. Les minutes passent. La femme de Rick Husband. Un pressentiment. Elle sait qu'elle aurait déjà dû entendre le boom qui précède l'arrivée de la navette. Quelques instants plus tard, la nouvelle tombe.
France Inter.
The crew of the shuttle Columbia.
L'équipage de la navette Columbia n'est pas retourné sur Terre en toute sécurité. Mais nous pouvons prier que Dieu bénisse les familles en deuil, que Dieu continue de bénir l'Amérique.
L'hommage du président des États-Unis, l'hommage de tout un pays, un à un, George Bush a cité ensuite le nom des astronautes disparus dans la désintégration de la navette Columbia. Ces 7 astronautes inconnus du grand public jusqu'alors. Ils sont devenus des héros pour tout ce peuple américain à 60 km au-dessus du Texas. À 21 000 km/h, la navette se disloque, explose, des traînées de fumée blanche barrent le ciel. Les États-Unis sont sous le choc comme ils l'ont été en 86 quand la navette Challenger a explosé une minute après son décollage. Les hommages viennent du monde entier, notamment Jacques Chirac qui a présenté ses condoléances, tout comme le russe Vladimir Poutine ou encore le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan.
Quelques heures après l'annonce de l'accident, le président George Bush s'adresse à la nation. Il rend hommage aux 7 astronautes morts lors de leur retour sur Terre. Comme lors de l'explosion de la navette Challenger en 83, les 3 orbiteurs restants sont cloués au sol. Une longue enquête débute. Dans les jours et les semaines qui suivent, des dizaines de milliers de débris sont collectés au Texas et dans les États voisins. Ils sont acheminés vers un immense hangar où l'on tente de reconstituer la navette. Mais seulement un peu plus d'un tiers de celle-ci sera récupéré. Parmi les débris, on retrouve le caméscope de Laurel Clark. La cassette qui contient les images enregistrées lors de la descente est intacte. On récupère également la boîte noire de Columbia qui permet de confirmer les données observées au sol. Très vite, les responsables de l'enquête pointent du doigt le bloc de mousse isolante qui est venu percuter l'aile gauche lors du décollage. Pourtant, certains à la NASA ne veulent pas y croire. Il se trouve que le bord de l'aile est recouvert de plaques de carbone renforcées réputées incassables. Alors, pour en avoir le cœur net, on organise une reconstitution. On projette à très haute vitesse un morceau de mousse sur une réplique de l'aile, protégée par ces fameux morceaux de carbone. Or, les images sont sans appel. Le carbone en question, épais de seulement de 2 cm, ne résiste pas. La violente collision crée un trou béant. Il faudra plus de 2 ans avant de voir une nouvelle navette spatiale partir pour l'espace. À la suite de cette catastrophe, la NASA met en place de nouveaux protocoles. Pour chaque mission qui décolle, une seconde est installée sur le pas de tir, prête à s'envoler pour secourir l'équipage en vol. Les bras robotiques sont rallongés et équipés de caméras dernier cri. Après chaque décollage, les astronautes procèdent à une inspection minutieuse du vaisseau. Désormais cantonnés aux missions de ravitaillement de l'ISS, les navettes doivent aussi effectuer des tours sur elles-mêmes avant l'amarrage afin que les hommes et femmes à bord de la station puissent vérifier que rien n'est endommagé. Le 8 juillet 2011, Atlantis décolle ainsi du Kennedy Space Center. Et c'est le dernier vol d'une navette spatiale américaine. 135 vols et plusieurs missions emblématiques, le programme STS est pourtant loin d'être un succès. Sur sa dernière phase, chaque décollage coûte 1,5 milliard de dollars à la NASA, loin, très loin, des 50 millions promis lors de son lancement en 1972. Mais les dérives économiques de STS ne sont rien comparées aux 14 astronautes morts qu'il laisse derrière lui. Si les navettes ont fait rêver les amateurs d'astronautique, elles sont de loin les engins spatiaux les plus dangereux jamais conçus. Aujourd'hui, le drame de la navette Columbia. Notre invité, Philippe Perrin, bonjour.
Bonjour.
Ancien spationaute, on dit spationaute pour les Européens, en principe, hein, de l'Agence spatiale européenne. Vous avez volé dans la navette américaine à l'occasion de la mission STS-111. C'était en juin 2002. Et de votre expérience de spationaute, vous avez sorti un livre, témoignage, qui s'appelle « En apesanteur ». Et on vous voit, lors d'une sortie extra-véhiculaire, donc vous flottez dans l'espace. Et si vous baissez les yeux, vous voyez la Terre, notre Terre. On a dû vous poser la question 100 fois, ça fera 101. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Parce que vous avez l'air tellement cool en plus, là, sur la photo.
Oui, mais c'est ce que je ressens. En fait, on est soi-même un petit vaisseau. On peut résumer tout ce qu'on connaît à ce qu'on a devant les yeux, c'est-à-dire une Terre qui est là, qui est ronde de façon assez étrange, animée de vie, et on sait que toute la vie est là, et autour c'est un ciel noir un peu inquiétant, et c'est un sentiment très heureux.
Combien de temps vous êtes resté comme ça?
Alors j'ai fait 3 sorties, donc un total d'une 20aine d'heures en scaphandre.
Ah oui, 20 heures.
Oui.
20 heures.
20 heures en tout, oui.
Bon. On revient à Columbia. Est-ce que selon vous, cet accident, ce drame de Columbia a accéléré la fin du programme de la navette spatiale, ou est-ce qu'elle était programmée pour s'arrêter vite après cette mission?
Je préfère la deuxième question, parce qu'en fait, le verre est dans le fruit, c'est-à-dire que la navette est un engin extrêmement performant et quelque part donc extrêmement fragile. Mmh. On le sait très tôt, la probabilité de ne pas revenir, et je le savais moi en volant, était à peu près d'une chance sur 100. Alors on a résolu un problème qui était quand même critique, qui était celui de la mousse. Il faut se souvenir que la mousse n'aurait jamais dû se détacher du réservoir. Et dès le premier vol, le vol inaugural dont on parle dans votre sujet, avec aux commandes de John Young, eh bien on doit changer 300 tuiles. Et de façon récurrente, on en changeait 140 par vol. 80% des missions étaient impactées par un impact de mousse. Donc ça, on arrive à le résoudre, mais il en reste d'autres. La navette est vieillissante, les moteurs tombent en panne. Sur le vol de Michel Tonini, il y avait déjà eu quelques problèmes de puissance. Donc on sait que de toute façon, l'accident est là.
Pourtant, le concept est original, ce concept hybride, mi-avion, mi-fusée, la façon dont l'engin décolle, vraiment comme une fusée à la verticale, la façon dont il revient comme un avion, c'est fascinant.
C'est fascinant, c'est extrêmement puissant, ça a été inventé par toutes les têtes pensantes qui avaient fait les missions Apollo, les meilleurs ingénieurs des États-Unis mais du monde entier. Mais on arrive au bout d'un cycle, et après un accident, après un deuxième accident, il y a un problème de prestige pour les États-Unis. D'ailleurs, on entend le président Bush qui dit qu'on bénisse les astronautes, mais qu'on bénisse aussi les États-Unis, parce que les États-Unis ont un problème. Et je pense que c'est la raison pour laquelle on va interrompre les vols de navettes.
Le coût des missions compte aussi?
Alors, le coût aussi. Le coût, de toute façon, c'est le nombre de vols par an. Moins on vole, plus chaque vol est coûteux. À mon époque, un vol coûtait 1 milliard. À la fin, ça coûtait 1,5 milliard. Ouais. Le problème, c'est un problème de ressources, parce qu'on mène de front à ce moment-là les vols de navettes et la station spatiale qui elle-même coûte. Donc on n'a pas, en fait, d'argent pour tout faire.
Alors, vous avez donc volé à bord de la navette spatiale Endeavour. Quel était votre rôle? Et qu'est-ce que vous avez, d'abord, combien de temps ça a duré? Et qu'avez-vous fait pendant ce séjour?
Alors, c'était l'époque des pionniers. Il fallait en fait construire, je dis souvent, là, pour que Thomas Pesquet puisse avoir une navette, une station spatiale, il fallait lui construire. Donc, il y a eu une époque où on a construit la station. La station, c'était ce qu'on appelait le mur des sorties extravéhiculaires, parce que tout s'assemblait à la main, comme sur un chantier, avec l'aide d'un bras robotique qui est un peu la grue du chantier. Et mon rôle, c'était de sortir à 3 reprises et d'assembler la station, et au passage aussi de réparer la grue de chantier qui était en panne.
Et justement, s'occuper de la station, c'était l'objectif principal du programme Navette, considérant peut-être que les autres vols étaient plus anecdotiques ou non?
Alors, tous n'étaient pas anecdotiques, je pense notamment aux missions Hubble.
Façon aucune.
Voilà, non, mais je veux dire, il y avait quand même quelque chose de très fort dans les missions Hubble. Par contre, c'est vrai que la navette avait été faite quelque part pour avoir beaucoup de charges utiles et pouvoir emmener en orbite, et donc dans la station spatiale internationale, énormément d'expérience. Donc l'idée, c'était de mener de front un laboratoire et un engin qui puisse nourrir ce laboratoire. La difficulté, c'est qu'avec la perte de la navette, en fait, on n'a plus accès au laboratoire et c'est toute la science qui s'écroule.
Alors, la mission STS-111 à laquelle vous avez participé, c'était 2 décollages seulement avant l'accident de Columbia, donc c'était après Challenger, on est d'accord. Est-ce qu'au sein du corps des astronautes, il y a toujours cette pensée du risque? Vous me disiez qu'il y avait, les risques étaient évalués à 1 risque sur 100, c'est beaucoup. Hein.
C'est énorme.
Comment on fait pour évacuer ça? Alors, et penser à autre chose, et penser à l'essentiel?
Soi-même, on peut l'évacuer. C'est peut-être plus difficile à évacuer pour la famille. Et moi, j'ai assisté à des scènes assez étranges. John Young était encore là. Il avait passé l'âge de voler dans l'espace, mais il était dans nos réunions. Et un jour, une réunion du lundi matin, il prend la parole et il dit « Chaque décollage, on a des impacts de mousse sur la navette. On va finir par perdre une navette. » C'est le lanceur d'alerte, comme il y en a certains chez Boeing aujourd'hui. Et les gens en place lui disent « Non, non, John, tu es un vieux monsieur maintenant. Tu te tais, on sait ce qu'on fait. » Quelques mois après, c'est l'accident dans mon équipage. J'avais Franklin Chang-Diaz, qui est un astronaute émérite, qui avait volé, c'était son 7e vol. Il avait été sur la mission Challenger. Les équipages avaient été permutés, donc il avait survécu quelque part à la mission. Et il me dit, quelques temps avant qu'on vole nous-mêmes dans l'espace, « Philippe, je suis inquiet. » Je lui dis, « Mais pourquoi tu es inquiet ? Je sens l'accident revenir. »
Aïe.
Parce que c'est vrai, mais c'est vrai dans les compagnies aériennes, c'est vrai absolument partout. Quand on n'a pas eu d'accident, on finit par oublier que c'est possible.
C'est la fameuse routine.
Et on baisse la garde.
C'était Apollo 13. Hein.
Exactement.
Ouais.
C'est vrai aussi des opérations militaires. Il y a eu le Kippour, et ensuite il y a eu le 7 octobre. Donc à chaque fois, on baisse la garde.
John Young. Parler de John Young, je voudrais faire une petite parenthèse sur ce monsieur exceptionnel. Peut-être le plus beau curriculum vitae de tous les astronautes. Il était, je crois, vous me dites si je me trompe, sur Gemini. Apollo 10, un autre Apollo, je crois, et c'est 16 ou 15 ?
Un Apollo, il n'est pas allé sur la Lune, 16. Un Apollo, il a marché sur la Lune.
Marché sur la Lune, voilà, 10, il n'y est pas allé, 16, il marche sur la Lune, et on le retrouve après.
Alors, il est pilote d'essai de la navette spatiale, c'est pas rien, parce que c'est l'engin, je crois, le plus complexe. Et pour moi, c'était un vrai plaisir, parce que c'est l'engin où l'homme est le plus impliqué dans la conduite des opérations, que ce soit au niveau du pilotage, du rendez-vous, du pilotage du bras robotique, enfin, tout y est, quoi.
Philippe Perrin, ancien spationaute, quel était votre rôle exact, vous, dans l'équipage de la mission STS-111 ? Quelle était votre spécialité ?
Alors, il est
à part les sorties extravéhiculaires.
Il est pluriel. Dans les phases de montée et de descente, je suis ingénieur de bord. Une navette, c'est complexe, donc ça se conduit à quatre membres d'équipage, deux pilotes et deux ingénieurs. Donc je pilote également le bras robotique et je suis aussi ingénieur de rendez-vous, le rendez-vous spatial. C'est moi qui mesure la vitesse avec le rapprochement.
Quelle est l'ambiance au sein du vaisseau ? Parce qu'on vit en communauté quand même pendant 2 semaines.
Ce qu'on a entendu dans les témoignages de l'équipage de Columbia, c'est-à-dire quelque chose de très fraternel, de très heureux. On utilise beaucoup l'humour et l'humour est d'ailleurs toujours une défiance. Vous avez entendu les astronautes dire « on n'aimerait pas être dehors » au moment où ils voient le plasma.
Ça met le drame à distance, l'humour.
C'est ça, c'est ça.
Surtout dans une navette, un endroit confiné comme
ça. Finalement, c'est très heureux. On rit beaucoup.
Bon, je reviens au cœur de notre sujet, Columbia. L'incident au décollage, donc cette fameuse question de mousse là, a été repéré par le personnel au sol. L'équipage avait-il conscience qu'il y avait un problème, mais surtout de la gravité du problème ?
Non, pas du tout. Pas du tout, c'est une vraie question, parce que ce qu'on voit, c'est quand même important, mais on s'est habitué à le voir. On finit par confondre deux statistiques, c'est-à-dire la statistique de l'ingénieur qui dit « ce truc-là ne devrait jamais arriver », et puis la statistique qui dit « ben finalement, ça arrive et en général, ça se passe bien ». Ça me rappelle l'histoire du type qui est à côté d'une rivière, ça fait 20 ans qu'il est là, et ça s'est toujours bien passé, puis un jour arrive la crue centennale, et on l'entend à la télé dire « mais je ne comprends pas, depuis que je suis ici, il ne s'est jamais rien passé ». Voilà.
Et donc ?
Et donc, on s'habitue à ces impacts. Et au moment où l'impact arrive, finalement, on ne veut pas regarder la vérité. Parce qu'aller regarder en temps réel la probabilité d'avoir perdu l'orbiteur, c'est insoutenable. Il n'y a pas de mission de secours. Donc finalement, comme les trois singes, on décide de ne pas regarder, de ne pas écouter, de ne rien dire. Et on ne dit rien à l'équipage.
Donc une mission de sauvetage est réellement impossible sur une navette.
Alors, il y avait une navette qui aurait pu décoller parce qu'elle était déjà sur le pas de tir. La difficulté, vous l'avez dit, c'était de s'accorder et de créer un sas pour extraire l'équipage. Donc, ce n'était pas vraiment prévu. Moi, ça m'avait toujours étonné parce que côté russe, il y a toujours un véhicule en attente, prêt à venir vous chercher. Ce n'était pas le cas. Donc, c'est la démarche américaine qui est peut-être plus optimiste.
Oui, enfin, plus audacieuse aussi.
Plus audacieuse.
Est-ce qu'on peut dire qu'entre Columbia, Challenger, Endeavour, Atlantis, il y en a une qui est meilleure que l'autre ? Ou c'est juste une question de nom ?
Oui, elles avaient chacune leurs défauts, leurs qualités. Endeavour, la mienne, était la plus récente, donc elle était plutôt très, très performante.
Quel regard, vous, spationaute de la presque nouvelle génération, finalement, par rapport à Apollo, quel regard vous portez sur le programme Mercury, Gemini, Apollo ? C'est que, évidemment, les trois programmes sont intimement liés. Ce sont trois éléments, finalement, d'un même programme. Il y avait un côté presque romantique là-dedans. Pionnier, Jules Verne.
Je dirais cette romance est restée jusqu'aux missions navettes. Tant que l'équipage était impliqué dans la conduite des opérations, c'est-à-dire que sur une navette, on pouvait prendre les commandes au décollage et piloter la fusée elle-même. C'était une possibilité. Je crois que la romance s'est arrêtée avec Elon Musk, avec la Falcon 9, des choses comme ça plus.
C'est-à-dire que quand on va à Cap Canaveral, à Cocoa Beach par exemple, on voit beaucoup beaucoup de touristes qui viennent assister à des vols privés. Et ça change tout, je trouve.
Ah, ben, c'est terrible parce que ces vols coûtent quand même toujours très cher. Ouais. Et une question se pose de finalement qui a le droit de voler. Est-ce que c'est un processus démocratique orienté vers la recherche ou est-ce que ce doit être commercial? Mon avis, c'est que ça ne devrait pas être commercial.
Ouais. Et pourtant, ça l'est et ça prend de l'ampleur.
Oui, mais ça ne devrait pas parce que d'abord, ça pollue. Et si on doit tolérer une pollution associée aux vols spatiaux, c'est uniquement pour le bien de l'humanité. Ça peut pas être pour le plaisir de quelques milliardaires.
Aujourd'hui, selon vous, quelles devraient être les priorités du programme spatial international, que ce soit de la part des Américains, des Russes, des Chinois?
Elles sont relativement honorées grâce à Elon Musk. La première priorité, je pense, que c'est de protéger la Terre du risque de collision avec un astéroïde qui est toujours probable. On parle de probabilité. Ouais. La probabilité pour toute l'humanité d'être détruite par un satellite, c'est la même que pour... Enfin, un astéroïde, c'est la même que pour un seul homme de gagner au loto. Donc c'est une probabilité qui existe. Donc couvrons-la. Et on a les moyens maintenant, avec les fusées extrêmement performantes de Musk, de mener cette mission à terme. L'autre mission, bien évidemment, ça va être d'aller sur Mars. Mais comme on n'a pas vraiment les moyens aujourd'hui, allons sur la Lune. Le temps de...
J'allais vous le dire, allons sur la Lune, mais pourquoi faire?
Alors, pour garder, c'est une bonne question, pour garder la dynamique, une technologie, ça peut être le nucléaire, ça peut être l'aviation, ce que vous voulez, ça ne se conserve pas dans des bouquins. C'est-à-dire qu'une fois que ça a été développé, c'est quelque chose qui se passe d'une génération à l'autre. Si on arrête à un moment de faire, en fait, on ne sait plus faire. Et donc, on est quelque part contraint au succès et contraint à faire jusqu'à ce qu'on ait les crédits, les moyens et l'envie peut-être d'aller sur Mars.
Mais est-ce que la Lune pourrait servir de relais avant d'aller sur Mars comme une étape, une
Alors,
première étape?
Elle va servir, c'est parti, vous connaissez les missions Artemis. Elle servira effectivement à comprendre le travail à distance, l'autonomie et cette envie d'explorer. Parce que la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on est en compétition avec le cinéma. C'est-à-dire, entre une mission réelle, et on va voir d'ailleurs, est-ce que les missions lunaires marchent, on sera en compétition avec des films qui pourraient se passer sur la Lune ou qui pourraient se passer sur Mars. C'est la difficulté de continuer à faire du réel quand parfois la fiction est plus grande.
Concernant Thomas Pesquet, très médiatique quand même, hein, racontant tout ce qu'il vit. Est-ce que ça vous choque, vous, ou est-ce que vous trouvez ça bien, comme ça, qu'un spationaute partage, mais jusqu'à la médiatisation?
Thomas a bénéficié d'une époque qui est l'époque des réseaux sociaux. C'était quelque part utile, puisque je vous l'expliquais avec l'accident de la navette, on a été dans l'incapacité de mener toute la science qu'on voulait. Donc quelque part, il a fallu aussi faire un peu d'Instagram pour occuper l'instant. Voilà, c'est pas la finalité de l'exploration. L'exploration, encore une fois, c'est pas pour parler des astronautes, mais c'est pour parler en fait de l'univers qu'on va aller conquérir et connaître.
Bien, modestie, mais quand même, témoignage, et donc votre témoignage, Philippe Perrin, s'appelle « En apesanteur » chez Michel Lafon. Voilà, si vous voulez prendre de la hauteur, bah vous lisez ça.
Oui, c'est quelque chose que j'ai écrit comme un roman, c'est très facile à lire.
Oui,
j'ai eu une vie de romance et quelque part, je voulais la partager.
Bien, merci infiniment Philippe Perrin.
Merci.
Au revoir.
À vous. Merci.